Pau enchaîne par une deuxième victoire consécutive. Petit succès 1-0 devant le Smouha d'Égypte grâce à un but d'Assalé. On va écouter Patrice Carteron, l'entraîneur du club louchois.
On a fait une première mi-temps vraiment très bonne, avec malheureusement trop de déchets dans la dernière passe ou dans la finition. Mais on a eu, je pense qu'on a été entre 60 et 75% de possession de balles en première mi-temps. On récupérait les ballons très haut. On a eu énormément de déchets sur notre secteur offensif, où les joueurs ont été alimentés quasiment une quinzaine de fois dans les 20 derniers mètres. C'est vraiment dans le dernier geste qu'on a eu beaucoup de déchets aujourd'hui. Sur la première mi-temps elle-même, je trouve que l'agressivité était bonne, que la circulation de balles était plutôt bonne. On arrivait à trouver les espaces, à se créer des occasions. Pour moi, il a vraiment manqué ce petit but qui nous aurait permis d'être plus libérés forcément et d'obliger surtout ce mois à sortir de sa coquille.
Voilà Patrice Carteron, l'entraîneur des tout-puissants Mazembe à Lubumbashi. Mazembe reste donc premier de ce groupe devant le Maghreb de Tétouan qui est allé s'imposer 1-0 au Soudan sur la pelouse d'Al Hilal. Thierry Camoudi, on vous retrouve à Kinshasa après deux matchs poussifs, je le disais, les corbeaux qui commencent à s'envoler dans cette compétition. Hein.
Ah oui, ça y est, on peut dire que les corbeaux tiennent la fin. Ils étaient donnés comme archi-favoris dans ce groupe composé de beaucoup de nouveaux, notamment Maghreb Tétouan. Et ce mois-là, après deux matchs nuls lors des deux premières journées, ils ont réussi à enchaîner deux succès et à se détacher au classement de ce groupe, suite notamment au Popa d'Al Hilal à domicile contre Maghreb Tétouan. Il faut le souligner également. Ça a été un match globalement difficile pour Mazembe car ce mois était très très bien regroupé, surtout défensivement. Il y a eu très peu d'occasions, Patrice Carteron l'a relevé. Beaucoup de déchets, surtout dans les chefs des attaquants de Mazembe. Mais il a suffi de ce coup de génie de l'Algérien et de l'Ivoirien Roger Assalé pour débloquer le compteur de ce match et donner de la joie aux supporters des Corbeaux. Et c'était suffisant pour Mazembe qui se relance donc et qui a marqué un pas très très important vers la qualification pour les demi-finales.
Allez, on va prendre un appel d'Abidjan. Roger Yao nous appelle. Bonsoir.
Nicolas.
Alors vous n'avez dit, ça ne me surprend pas, je vous avais dit lors d'une précédente émission que le tout-puissant Mazembe produisait du bon jeu. Donc pour vous, ça y est, on retrouve la vraie équipe de Lubumbashi. Hein.
Oui, bien sûr, l'appétit vient en mangeant. Hein. Donc, comme il avait dit, l'équipe joue bien, mais il fallait seulement marquer, c'est tout. Voilà, donc, ça peut vous dire que TP Mazembe retrouve ses marques. Voilà, vous avez vu le match avec moi. Tout marchait, mais c'est seulement cette devant qui n'allait pas. Avec le but d'Assalé, vous avez vu que le TP Mazembe se retrouve. Donc, comme le dit toujours, les grandes équipes ne veulent jamais.
Mais
voilà,
oui.
Donc, il faut toujours courir. Oui.
Oui, non, tout à fait. Et on va poser la question à Jules Valentin Gouet. Jules Valentin Gouet, pendant ce temps-là, évidemment, le Maghreb de Tétouan, c'est important, est allé s'imposer 1-0 au Soudan sur la pelouse d'Al Hilal. Le Maghreb de Tétouan également bien placé pour se qualifier. Hein.
Oui, bien sûr. Un scénario idéal pour les joueurs de Tétouan qui ont réussi à abattre un adversaire direct pour la qualification parce que ce n'était pas donné dans cette poule où on savait que le Mazembe était favori au départ et que ça se jouerait à trois entre les trois équipes de l'Afrique septentrionale. Donc je crois que c'est un pas que Tétouan fait ainsi et par la même chose, il fait reculer un adversaire direct, ce qui est très important dans les matchs de poule.
Merci beaucoup. On va noter évidemment dans l'autre groupe, le groupe B, l'Entente sportive de Sétif, championne d'Afrique en titre, a subi une défaite 2-0 au Soudan face à El Merrer. Puis évidemment, les Algériens auront beaucoup de mal à se qualifier en demi-finale. En revanche, Élisée Oungpatine, ça va parfaitement pour l'USM Alger. Un quatrième match, quatrième victoire. Les Algériens ont battu dans le derby le Mouloudia 1-0. L'USM pour le moment favorite. Hein.
Bien évidemment, puisque c'est une journée à le continent. Donc, ils ont eu.
Alors, Élisée Oungpatine, on a du mal à vous entendre. Élisée Oungpatine, on vous reprendra tout à l'heure. On va prendre Amdinsi. Amdinsi, évidemment, nouveau venu dans la bande de Sporama. Amdinsi, on disait les Algériens qui caracolent en tête. On va surtout parler de l'USM Alger, 4 victoires en 4 matchs. Hein.
Oui, ils sont très bien passer pour partir pour faire comme on a l'habitude de le dire, un sans faute, un parcours sans faute, 4 victoires, 4 matchs, il fallait le faire et les Algériens l'ont fait. Ces temps-ci, les Algériens sont en train tout simplement de prouver qu'ils font partie des meilleures équipes au niveau africain.
Merci beaucoup, hein, Amdinsi, qui est avec nous justement pour parler de cette Ligue des Champions. On va marquer une petite pause dans cette émission. En bref, la Super Coupe d'Europe demain 100% espagnole. Le FC Barcelone, vainqueur du triplé Ligue, Coupe, Ligue des Champions, repart en chasse avec la Super Coupe d'Europe. Ce sera contre Séville. Les Blaugrana viseront, malgré l'absence de Neymar, un 4e titre sur 6 possibles en 2015. A noter que le match se jouera à Tbilissi en Géorgie. Amdinsi, évidemment, le FC Barcelone est favori hein, sur ce match.
Ah oui, le FC Barcelone est super favori. Si on sait ce qu'ils ont réalisé la saison passée, le FC Barcelone qui ravage tout sous son passage restera toujours favori, Nicolas.
Merci beaucoup, Amédine. On va prendre l'avis également de Jules Valentin Gouet. Jules Valentin, sur cette finale de la Super Coupe d'Europe entre deux clubs espagnols, on va le redire, hein, la suprématie espagnole sur le continent, ce n'est pas un mythe. Votre cœur balance entre Séville et FC Barcelone ou Barcelone est favori?
Bien sûr, Barcelone est favori, mais il ne faut pas oublier que Séville a déjà, à ce stade de la compétition, et dit donc battu Barcelone, on se rappelle, les années passées, et que ce sont des équipes du même championnat qui se connaissent très bien, Séville étant une équipe qui joue en contre. Donc l'idéal pour ces joueurs de Séville, c'est d'avoir des espaces. Donc attention à Barcelone, qui a eu à concéder un nul contre Séville, justement en fin de championnat, alors qu'il menait par 2-0.
Merci beaucoup. On va parler tout de suite à Élisée Ungpoitine. Élisée, l'information hein, ce lundi concernant la présidence à la FIFA, c'est le tacle à la gorge, on va dire, du prince Ali bin Al Hussein, concurrent évidemment hein, du président démissionnaire Sepp Blatter, c'était lors de la précédente élection au mois de mai. Eh bien, le prince jordanien qui tacle Michel Platini, selon lui, il faut des nouvelles têtes et Michel Platini ferait partie de l'ancien système. On se souvient que Michel Platini avait soutenu le prince jordanien lors de l'élection. Est-ce que vous comprenez, Élisée Ungpoitine, ce qui se passe en ce moment entre les deux hommes?
Bon, il ne se passe rien hein, parce que au moment où Platini supportait le prince, hein, Platini l'avait expliqué clairement, lui ne pourra jamais se présenter hein, devant cette blague parce qu'il savait qu'il n'allait jamais battre hein, le Suisse. Maintenant, si le Suisse n'est plus d'actualité, s'il ne fait plus partie hein, de ceux-là qui seront désormais à la tête de la FIFA, ben, Platini a bon choisi hein, de tenter maintenant sa chance. Maintenant, le prince entend qui a vu Platini le supportait, hein, croyait toujours que le président de l'UEFA hein, pouvait le supporter jusqu'à la présidence, mais voilà, Platini a choisi maintenant de se présenter comme candidat et là, désormais, le prince fait que face à Platini, lui aussi n'a aucune chance puisque Platini, sur ce qu'il a fait au niveau de l'UEFA, là, on pourra s'attendre hein, qu'il sera élu à la tête de la FIFA, surtout qu'il y a certaines fédérations qui ont déjà commencé pas lui porter son soutien. Donc, c'est-à-dire que le prince sait désormais que le vrai challenger ou bien le gagnant pour le moment, ce sera Michel Platini.
Merci beaucoup. On va prendre un autre appel. Boutembo, République démocratique du Congo. Il s'agit de Gloire. Bonsoir, Gloire. Allô, bonsoir, Gloire. Est-ce que vous nous entendez à Boutembo? Vous réagissez sur la victoire du tout-puissant Mazembe, hein?
Oui, bien sûr, exact, c'est celle-là. Vraiment, notre équipe nous a beaucoup plu le samedi dernier lors de sa victoire 2-0 contre les Noirs d'Égypte. C'était un grand plaisir pour tous les Congolais et les supporters du Mazembe.
Supporters du Mazembe, merci beaucoup, hein, Gloire, de nous avoir appelé depuis Boutembo, dans l'est de la République démocratique du Congo. On va passer à l'entretien de Sporama. Cette semaine, je me suis entretenu avec le joueur camerounais de l'Impact de Montréal, Ambroise Oyongo, transféré de façon rocambolesque et sans qu'on lui demande son avis de New York à Montréal. Le joueur espère toujours évoluer en Europe. On rappelle évidemment que l'Impact de Montréal, c'est le nouveau club de Didier Drogba. En attendant, Oyongo réalise. Alors ça c'est la bande qui part, carton jaune à la production. En attendant, Le joueur Oyongo réalise une bonne saison avec le club de la Major League Soccer. Voilà, la bande est calée, on va réécouter Ambroise Oyongo.
Tout se passe bien, les gars ils m'ont bien accueilli et voilà. Je n'ai pas pris assez de temps pour commencer à jouer, j'ai pris juste une semaine et après j'ai commencé à jouer et là depuis je joue, j'enchaîne des matchs et ça se passe bien. Donc voilà, on est remonté au classement, nous sommes la première équipe sur les six à se qualifier. Donc maintenant il faut garder le cap et continuer à faire des bons matchs pour rester parmi les six et aller au play-off. Mes objectifs d'abord, ça passe par les objectifs du club. Si on est au play-off et que voilà, on fait des bons matchs, je pense qu'avec ça, je pourrais penser à régler certains points sur ma carrière. Donc, il faut faire des grands matchs, il faut aller au play-off pour amener les gens vers toi et se faire voir et vendre son talent. Donc, je pense qu'au play-off, il y a moins d'équipes, il y a beaucoup de regards sur le club. Donc, je pense qu'avec ça, on pourra regarder autre chose que la MLS ou encore atteindre un autre niveau plus correct.
Justement, en tant que joueur camerounais, est-ce que c'est pénalisant selon toi de jouer en MLS pour la sélection camerounaise?
Non, pour moi je trouve que ça va. Si tu es bon et que tu fais, je pense que même si tu joues dans n'importe quel championnat, même si c'est le dernier championnat dans le monde et que tu as des très belles performances, certainement on viendra te chercher. Moi je ne trouve pas une faiblesse ou quoi que ce soit. Je trouve que voilà, c'est un championnat, il faut se donner. Pour être talent, il faut être travailleur et parce que le talent ne suffit pas. Il faut mettre le travail à cela, faire des grosses performances, enchaîner des bons matchs et voilà, tout viendra, les portes s'ouvriront certainement.
La CAN 2017, tu y penses?
Ouais, ça c'est sûr. Moi j'y pense, je travaille tous les jours. Si je suis en MLS, c'est un challenge de travailler encore doublement pour pouvoir, pourquoi pas un jour, retrouver l'Europe. Parce que moi, mon rêve déjà, c'est de jouer en Europe, jouer la grande compétition, la Champions League. Donc voilà, donc ça me permet de travailler encore plus. Et en sélection, déjà, j'ai fait des preuves. Donc je continue juste à travailler. Et avec l'équipe nationale, je pense qu'on va se qualifier. Parce qu'on a un très bon groupe. Nous sommes jeunes. Tout le monde a besoin de prouver pour pouvoir rester dans l'équipe. Donc voilà, avec ça, on va continuer à travailler tous ensemble avec l'entraîneur qui a été prolongé de 2 ans. Donc ça, on y pense vraiment, on y pense pour 2017 et 2019 aussi.
Et comment est la vie de groupe justement dans cette équipe montréalaise? On sait qu'il y a plusieurs Africains, notamment Didier Drogba qui est arrivé. Comment va le groupe?
Ouais, c'est super, ça va déjà très bien avec l'arrivée du grand frère Didier. Il a déjà essayé d'apporter une petite retouche dans le vestiaire et sur le terrain à motiver toute l'équipe. Donc ça se passe bien. Donc il y a une très bonne ambiance là, l'entraînement, tout le monde à 100% et voilà, il y a une bonne concurrence maintenant. Donc il faut que ça continue comme ça pour les prochains jours.
Voilà l'entretien avec Ambroise Oyongo, le joueur camerounais de l'Impact de Montréal. Allez, on parle basket, tournoi de Dakar, ce tournoi qui sert de préparation à l'Afrobasket en Tunisie. Tournoi perturbé par le forfait de la Côte d'Ivoire. Et hier, lors du premier match, le Sénégal s'est rassuré en battant le Cap-Vert 72-50. Alors, ce soir, une équipe B du Sénégal devait affronter le Mali, mais les voisins maliens n'ont pas été contents. Alors, on va retrouver Amdine Sine hein, pour nous parler de ce tournoi de Dakar. Finalement, à Médine, les Maliens jouent contre l'équipe A du Sénégal et les Capverdiens contre une équipe B du Sénégal.
Tout à fait, Nicolas. Le match tant attendu entre le Sénégal et le Mali va débuter d'un moment à l'autre. Mais pour le moment, retenez que l'équipe B du Sénégal s'est inclinée devant le Cap-Vert sur le score de 73-58. Donc ce match a bel et bien eu lieu sur le parquet du Sadio Mané Ndiaye. Maintenant, on attend d'un moment à l'autre le coup d'envoi de ce match. Un match revanche pour les Sénégalais qui ont été éliminés lors des éliminatoires de l'Afrobasket 2015. Par cette même équipe du Mali, mais le Sénégal n'avait pas pu quand même obtenir ses meilleurs joueurs et les Maliens l'avaient éliminé et les Sénégalais ont bénéficié de la white card pour pouvoir participer à l'Afrobasket 2015. Comme aujourd'hui, ils ont l'occasion de laver l'affront, certainement ils le feront, Nicolas.
Alors justement, vous parliez de wild cards, on rappelle que la FIBA Afrique a donné ses wild cards à l'Algérie, la République Centrafricaine et le Sénégal, mais à Médine, on rappelle pour nos auditeurs hein, que la perturbation est grande dans la tanière sénégalaise puisque les joueurs ont fait grève à un certain moment. Encore une fois, encore une sélection africaine, un tournoi majeur, une question de prime.
Oui, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. La préparation sénégalaise a été perturbée non seulement au début par la non-présence de certains joueurs. Ensuite, il y a eu la grève, il y a eu le problème des primes. Mais la grève, c'est la goutte d'eau qui peut faire dévorer la vase si on sait que la préparation du Sénégal n'est pas tellement ça. Et les joueurs se sont mis à bouder les entraînements pour une histoire de primes. C'est vraiment regrettable si on sait que les mêmes primes ont été proposées à l'équipe nationale masculine et l'équipe nationale féminine. Les joueurs de l'équipe nationale féminine ont accepté sans broncher et les garçons ne voulaient pas de ces primes. Ils sont restés 72 heures sans pour autant venir s'entraîner au Sadio Mardiaï et cela a créé un grand désordre. Il a fallu l'intervention du ministre des Sports Matarba qui a tapé sur la table pour les faire revenir un peu à l'ordre. Il les a fait savoir qui sont des invités. Ils ne se sont pas qualifié sur le terrain, donc on ne doit pas faire du chantage pour porter le maillot national. C'est vraiment regrettable.
Merci beaucoup. On rappelle que cet Afro-Basket aura lieu du 19 au 30 août à Tunis et Nabeul en Tunisie. Et Jules Valentango et l'Angola championne en titre, mais surtout le Gabon qui participera également hein, avec l'Égypte, le Mali et le Cameroun hein, dans le groupe C. Hein.
Oui, le Gabon qui est en plein progrès depuis quelques décennies et puis le Cameroun qui a fait du basket une priorité relative depuis surtout sa belle prestation lors de l'édition angolaise il y a quelques années. Donc nous avons des équipes émergentes qui sont mêlées à la danse et ce sera d'autant plus intéressant que ça nous fera, disons, que des incertitudes pour les qualifications finales.
Oui, Thierry Kamboundi à Kinshasa. Hein, j'ai cherché la RDC, malheureusement, hein, les Léopards pas qualifiés. Hein.
Le basketball congolais connaît de sérieuses difficultés, Nicolas, depuis plusieurs années maintenant. Cette discipline n'est plus subventionnée par l'État congolais qui ne prend en charge le football, le cyclisme, le taekwondo et le handball. Conséquence, malgré que le championnat local continue à se dérouler normalement, à chaque fois que les équipes terminent championnes du Congo, elles ne savent pas participer aux compétitions internationales simplement parce qu'il n'y a pas d'argent. Il y a deux ou trois saisons, l'ASB Mazembe, grâce aux efforts de Moïse Katumbi et de son comité, avait financé elle-même, sa participation aux compétitions internationales. Mais c'est très très malheureux hein, pour le basketball de la République démocratique du Congo, qui a notamment en version féminine, a fait la pluie et le beau temps dans les années 80. Rappelez-vous de la génération Nzenga qui a remporté la Coupe d'Afrique au niveau des dames, mais qui aujourd'hui, franchement, connaît de sérieuses difficultés, problèmes d'infrastructure et manque criant de soutien financier, notamment au niveau de l'État congolais et des sponsors, naturellement.
Et Élisée Oumpatine, on va parler des jeunes, hein, des garçons, les moins de 16 ans. Hein, la quatrième édition de l'Afro-Basket au Mali et l'Égypte qui a remporté le trophée. Les garçons ont battu les jeunes maliens, hein, 64-63 en finale au Palais des Sports à Bamako. Hein.
Bien évidemment, puisque dans cette catégorie-là, ce sont les Égyptiens qui dominent sans partage. Il faut dire que c'est le troisième sacre de ces Égyptiens en quatre éditions, puisque l'année dernière, ce sont les Angolais qui ont remporté cette compétition d'ailleurs. L'Angola qui domine hein, le basketball africain depuis des années. Maintenant, les Maliens, surtout chez les dames, hein, qui ont remporté il y a cela quelques années hein, cette Coupe d'Afrique des Nations concernant les moins de 16 ans. Aujourd'hui, c'est une grande déception hein, du côté de Bamako, mais les Égyptiens ont montré une fois encore qu'il faudra compter avec eux hein, concernant l'espoir demain.
Merci beaucoup. On va vous remercier, hein, Élisée Oumpatine, qui était à Boïcon, au Bénin, avec nous. Merci, Élisée.
Merci beaucoup, Nicolas. Lundi prochain.
On va saluer également à Kinshasa, Thierry Kamboundi, Top Congo FM, notre partenaire. Bonsoir.
Bonsoir, Nicolas. Bonsoir.
On va saluer également à Libreville, Jules Valentin-Goué. Bonsoir, Jules.
Bonsoir Nicolas et à très bientôt.
Et il est en vacances en France mais toujours au bout du fil pour parler sport et parler basket. Le petit nouveau Amdinsi, bonsoir.
Bonsoir Nicolas et ça a été vraiment un plaisir. Bonne soirée chez vous.
Bonne soirée à vous Amdine. On va saluer hein, Joselle Morissin et Georges Léonard Sagnot pour la mise en onde. Nicolas Pinault était à la présentation. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.